on parle plus d'humain, là, on parle de... On donne une idée, un dessin de la masse. Puis moi, je prédis que bientôt, il va dire, ben ça, là, cette bande d'immigrants-là, c'est comme trois terrains de football. Ça va être rendu comme ça qu'on les mesure, alors que c'est presque du cas par cas, l'immigration. Puis ça coûte cher, mais il faut s'y mettre. Parce que si on ne s'y met pas, on va disparaître. Parce que les immigrants, ils font des enfants.
Ah, ça finit bien ton, ton formidable laïus. Mais écoute, c'est ça l'immigration qu'on veut. On veut des gens qui vont dans les régions. D'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à aller dans les régions. Il y a une mesure hier qui est sortie indiquant que les immigrants qui quittaient Montréal étaient en augmentation. C'est la même chose à Toronto, d'ailleurs, c'est lié au coût du logement. On veut ça. On veut des gens qui s'implantent, qui fondent des familles, qui jouent à ringuette. Qui joue au soccer si ça leur tente aussi,
ben oui.
Qui fume la chicha, tu sais, la chicha, cette espèce de pipe qui filtre le tabac à travers l'eau, puis qui est bien meilleur pour la santé que la cigarette, whatever, qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais qui s'intègrent puis qui fassent partie du territoire. L'affaire, et puis même en gardant leur, parce que vous savez que les immigrants au Québec gardent beaucoup plus leur langue et beaucoup plus leur culture que les immigrants qui vont dans le reste de l'Amérique du Nord. Notamment les Italiens, il y a eu des mesures sur les Italiens, les Grecs, les premières vagues d'immigrants à Toronto versus Montréal, et les communautés sont beaucoup plus fortes ici au Québec parce qu'ils sont au sein d'une minorité majoritaire. Mmh. Alors oui à l'immigration. Ceci étant dit, non à une certaine immigration. T'as des entreprises au Québec où ce sont que des travailleurs temporaires ou une majorité travailleurs temporaires. Ils ne s'intègrent pas parce que ils sont pas invités à s'intégrer. Ils sont temporaires. Ils travaillent. On les loge. On prend tous les logements disponibles de la municipalité. On les loge. On les transporte en autobus, s'en vont en usine. Ils ne parlent que l'anglais quand ils le baragouinent. Après ça, ils font quoi? Ils envoient l'argent chez eux parce que on les comprend. D'envoyer l'argent chez eux, là, cet argent est nécessaire dans leur pays. Puis après, ils repartent chez eux le plus vite possible. Pourquoi? Parce que c'est pas vivable d'être juste une force de travail, de ne pas faire partie d'une communauté, de pas faire partie d'une famille. Alors, cette immigration-là, ben elle, il faut la ralentir, puis c'est pas évident.
Bien, merci à toi, Gildard, pour ce plaidoyer en faveur de l'immigration. Moi, j'apprends ça, là, ce matin, qu'il y a une communauté maghrébine à Val-d'Or, puis une équipe de soccer. mais je disais à Gildard, avant d'entrer en onde, qu'il y a une collaboration entre le secteur minier marocain et québécois. Ouais. Il y a des missions qui ont été organisées. C'est peut-être ce qui explique cela. Oui, à un plaidoyer en faveur de l'immigration, mais encore faut-il déterminer ce qu'on attend de l'immigration. Parce que de tout temps, l'immigration a servi de bouc émissaire. On a décrit les immigrants comme des voleurs de job. Aujourd'hui, puis il y a une exception, c'est durant la pandémie. On a qualifié nos immigrants de travailleurs essentiels, d'anges gardiens. Mais là encore, aujourd'hui, le gouvernement a dit le français est en déclin, c'est la faute de l'immigration. Il manque de logement, la crise du logement, se déploie dans tout le Québec, c'est à cause de l'immigration. Mais on ne s'est jamais questionné comme société sur notre vision de l'immigration, comment on veut, quel type d'immigration on veut. On a souvent qualifié l'immigration d'économique, mais notre projet de société avec l'immigration, c'est quoi? Puis on a intérêt à se poser la question, parce que tu le dis bien, si on n'organise pas mieux l'immigration, ben on va mourir, parce que sur le plan de la natalité, on fait pas assez d'enfants, puis les immigrants, eux, en font. Mais que les politiques continuent de peindre l'immigration comme étant un problème, moi, personnellement, ça me fatigue. Puis tu l'as dit, Gildard, tu as référé quand tu dis, on parle de l'immigration souvent comme des statistiques, comme de chiffres, d'une masse, alors que c'est tellement plus nuancé que ça dans la réalité. Ta conjointe est dominicaine.
Il y a 30 ans, elle est arrivée, elle parlait pas un mot de français. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les COFI, qui était un cours de français obligatoire. Tu étais obligé de suivre ce cours-là, sinon ils t'enlevaient ta résidence, là, tu sais. Ben après 6 mois, ma femme parlait français. Fait qu'il faut prendre les moyens pour aussi, puis leur donner l'occasion de le faire. À la maison, elle parle espagnol, elle parle français aussi. Elle va toujours parler français. Elle est québécoise. Mais elle a gardé sa culture, parce qu'au Québec, on leur permet de faire ça.
Écoutez, je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je pense pas que la politique, c'est la gestion des individus. Oui, il faut les prendre en considération. Moi, mon père, il est né au Maroc. Il s'appelle Ferrandez, d'une famille espagnole qui avait d'abord voyagé par l'Algérie, des travailleurs, des gros travailleurs. Toute sa famille est retournée dans le sud de la France. Lui est venu ici au Canada. L'immigration, je connais. Il s'est entouré d'énormément d'immigrants. Ma vie, ceux qu'on appelait mes oncles, mes tantes, c'était des immigrants. D'ailleurs, il y en a qui repartaient parce qu'ils n'aimaient pas ça ici, puis ils revenaient, puis après ça, ils disaient, c'est mieux là-bas, puis c'est mieux ici, puis ils étaient tout le temps dans l'avion, finalement. Puis donc, je connais ça. Sauf que toutes ces histoires-là sont attachantes. Toutes ces histoires-là sont touchantes. Mais quand tu fais de la politique, tu gères des chiffres. Puis des chiffres, ça te dit qu'il y a une partie des immigrants qui posent problème. Pas les immigrants eux-mêmes, pas Antoine Ferrandez. Antoine Ferrandez ne pose pas problème. Il est arrivé ici deux jours après, il y avait une pancarte du Québec français dans les mains. Il était là, il a défendu le Saint-Léonard français, après ça, McGill français, après ça, contre la loi 22, après ça, pour la loi Sarr. Moi, j'ai passé ma vie dans ce petit forum de défense de langue française.
OK? C'est sacré.
Donc, tu as passé ta vie où?
Au Centre Paul Sauvé. Okay. Écoutez, Gilles Vigneault. Donc, M. Ferrandez est bienvenu. Mais il faut regarder les chiffres. Il faut se poser la question de savoir, est-ce que globalement, il y a des situations où ça ne va pas? Et il y a des situations où ça ne va pas.
Mais tu mets la faute sur qui? Sur l'immigration?
Moi, je ne mets évidemment pas.
Sur les gouvernements?
Sur notre incapacité de regarder et de planifier des développements en se disant, OK, là, on est rendu à 10 000, on est rendu à... Le plateau Mont-Royal. Je connais des gens personnellement qui louent leur logement à une agence 4 000 par mois. Cette agence-là le reloue à un employé d'Airbus ou à un employé d'Ubisoft. Quand t'en as 1, 2, 4, 10, pas grave. Quand t'en as 10 000, commence à un méchant problème de logement. Pareil pour l'intégration à la langue française. Ce matin, il y avait un article dans les journaux. Presque toutes les fast-foods dans la région engagent des temporaires, même pas des immigrants. Pourquoi? Personne ne veut faire ça. Pourquoi? Parce que le salaire n'est pas bon. Moi, je dis, si tu n'es pas capable d'employer une personne qui serait capable de s'intégrer dans la communauté, c'est-à-dire se payer une maison, avoir une famille, aller à l'école puis se développer, ben ferme-la ta maudite business.
Ben là, c'est facile à dire.
Oui, c'est facile.
Très facile. Parce qu'en passant, le travailleur temporaire qui vient des Philippines, il dit, moi, ce que je gagne ici au salaire minimum, c'est 3 fois plus que ce que je gagnais aux Philippines. La possibilité ici, pour moi, là, de refaire ma vie est pas mal plus emballante que si je continuais de vivre,
Cette personne-là, c'est parfait.
Oui, tout à fait.
Mais le chiffre, c'est quoi le chiffre? C'est la capacité d'intégration des gens qui vont rester, par exemple, à Bécomo, à long terme, c'est quoi? Ou à Port-Cartier, à long terme.
Comment t'expliques à travers le monde, particulièrement en Europe, ce qui mobilise les partis politiques, le thème commun, c'est l'anti-immigration. T'sais, je regardais là la France, on s'entend que le ralliement national est en hausse, va probablement, même si c'est symbolique plus qu'autre chose, remporter les élections européennes. Je regarde ce qui se passe en Italie, je regarde ce qui se passe...
Mais Paul, c'est pour ça que la part de Gildor Roy ce matin est extrêmement important et celui de Nathalie Normandeau qui frappe sur ce clou souvent aussi très, très important. C'est-à-dire, faut regarder les humains. Faut que derrière ça, faut arrêter les peurs. Faut voir qu'il y a des histoires formidables d'immigration maghrébine à Rouyn-Noranda. Faut le voir, faut le regarder. Faut dire aux gens, arrêtez d'avoir peur. Mais l'État doit quand même gérer des chiffres.
Oui, ben personne n'est contre ça ce matin. Non seulement l'État gère des chiffres, mais elle établit des politiques. Mais là, ce qui manque au Québec, c'est la vision. Parce que, tu sais, on a toujours géré en fonction du seuil, par exemple. Combien d'immigrants on a? 50 000, 30 000, 40 000, 35 000. Le PQ dit, ben non, ça prend 35 000. La CAQ dit, ben là, 50 000. Le PLQ dit 70 000. Là, on est là, puis on s'obstine sur le bon chiffre. Mais je pense que ça va au-delà du chiffre. Notre société a complètement changé depuis la pandémie. Sur 220 000 immigrants, en 2023, il y a 170 000 travailleurs temporaires. Notre marché de l'emploi s'est complètement transformé. Alors, comment on tient compte de cette réalité dans notre vision de l'immigration? Les travailleurs temporaires qui vont, par exemple, qui travaillent à Val-d'Or, dans le secteur minier, ou ceux qui travaillent dans les fast-foods, quelle opportunité on leur donne de faire leur vie au Québec, de s'intégrer au Québec? Là, Luc, on n'a pas le choix, on se tourne vers le gouvernement, puis on dit, oh, mais écoute, est-ce qu'ils ont la possibilité d'obtenir une résidence, si tel est leur souhait?
Mais est-ce que le gouvernement pourrait pas légiférer, justement, pour intervenir auprès de ces entreprises-là qui profitent de ces travailleurs temporaires-là, de leur dire, bien,
dans tous les sens du terme.
Si tu veux avoir du cheap labor d'immigration, parce qu'il y a ça aussi, ben tu vas être obligé de participer à leur intégration. Fait que temporaire, là, ça fonctionne plus, ça. C'est une job ou c'est pas une job?
Moi, je suis d'accord. On augmente les seuils d'immigration.
Comme le gouvernement pourrait légiférer pour empêcher les compagnies étrangères d'acheter 10 000 condos puis de faire, tu sais.
Oui, mais moi, je suis d'accord avec ça. On augmente la vraie immigration, on baisse l'immigration temporaire. Oui. Oui,
mais pour ça, par exemple, les travailleurs temporaires, prenons dans le domaine agricole, ils ont des permis fermés. Alors, ils sont à la merci de leur employeur. Et c'est épouvantable, les conditions de travail souvent de ces pauvres travailleurs.
Avez-vous vu le film Richelieu?
Non.
Voyez-le, ça, c'est de ça que ça
oui,
parle.
Oui, exactement. Et un c'est autre documentaire formidable. Essentiel qui est passé sur à Télé-Québec il y a quelques années, là, 2 ans, je pense, peut-être même l'année passée. Et là, on pose des vraies questions.
Mais je prends l'exemple de cette étudiante haïtienne qui est à Montréal, qui est en maîtrise d'administration. Elle travaille en plein, puis elle étudie à temps plein. Là, le fédéral a décidé de couper à 20 heures semaine le travail. Tu te dis, mais pourquoi? Son employeur nous écrit en disant, j'ai besoin d'elle, elle est prête à faire les deux. Elle a budgété pour son logement, la facture de ses études, un job à temps plein. Puis là, soudainement, on dit non, tu vas travailler 20 heures. Puis dans certains cas, le 20 heures n'est pas nécessaire. Puis on se retrouve avec des gens qui perdent leur emploi.
Oui, moi, je pense qu'il faut faire du cas par cas. Il y a eu cette famille française aussi qui travaille dans le domaine de la santé, qu'on a voulu isoler, qu'on a voulu renvoyer. Dans certains cas, il faut avoir la souplesse de regarder des cas. Mais pourquoi cette règle-là existe du 20 heures?
Des faux étudiants.
Ben voilà, à chaque fois qu'il y a une règle bureaucratique stupide, c'est parce qu'en arrière, il y a eu un geste stupide qu'on essaie de contrer.
Oui, mais il y a d'autres moyens de trouver les faux étudiants que de pénaliser ceux qui travaillent puis qui font la vraie job d'étudiant.
Mais moi, je pense que si tu as un témoignage des gens de sa communauté qui dit, regarde, tu sais, le député, le maire, l'employeur, les voisins, check. Ça, là, nous autres, on se porte garant. Parce que moi, j'ai fait ça, hein. J'ai fait ça comme maire. J'ai fait ça comme maire, écrire une lettre en disant, hey, wow, hey, ça, ça n'a pas d'allure. Sauf que cette règle-là, on comprend pourquoi elle existe.
Oui, mais elle est appliquée bêtement.
Elle est appliquée bêtement.
Ouais, voilà. Voilà.
As-tu d'autres choses à ajouter?
Dans votre bande là, d'amis de votre père, Marie-Bé, avez-vous déjà entendu un immigrant dire « Moi, là, j'ai juste hâte de travailler mes 22 semaines puis de me mettre sur ce chômage. » C'est des
non.
concepts qui n'existent pas. Ça existe. J'ai jamais entendu un immigrant.
Te rappelles-tu du monologue de Mongrain là-dessus, sur les Italiens?
Non. Jean-Luc Mongrain?
C'est quelque chose. c'est un morceau du patrimoine.
Je ne connais pas ça.
Il dit que il y avait deux Italiens qui ont acheté l'immeuble. Ils ont commencé par ouvrir une pizzeria, puis il n'y avait pas d'argent pour se trouver un logement. Fait qu'ils habitaient ensemble dans le restaurant. Puis tout le monde disait, c'est des tapettes, c'est des maudits, puis c'est des... Puis lui, il habitait dans l'immeuble. Puis à un moment donné, il a acheté l'immeuble. Lui, il est devenu locataire des Italiens. Puis là, il y avait des grosses voitures, stationnées devant le commerce. Puis là, ils se sont mis à acheter d'autres triplex. Puis il raconte ça, tu sais, en disant « Maudite gang de Québécois paresseux puis racistes! » Puis ça vaut la peine d'entendre.
Gildard, merci beaucoup d'être venu.
Wow. C'est un honneur, merci.
Fais-nous l'honneur, voyons.
Ouais, et là, on a hâte de voir ton nouveau personnage, Dumas.
Et moi donc.
Et toi donc. Le Robert De Niro du Québec.
Arrêtez.
Non, on va t'écœurer avec ça très longtemps.
Oh.
Merci d'être venu. Merci à bientôt. Vous.
Voilà, donc la commission Normando-Ferrandaise est un petit peu plus longue qu'à l'habitude, mais je crois que ça valait vraiment la peine. Et travailler pour le chômage, j'en connais qui font encore ça. C'est moins facile qu'avant, là. Le chômage dure moins longtemps et ça prend plus de semaines pour se qualifier. Mais il y a tout de même des gens qui procèdent encore de cette manière-là. Il est 6h27, on s'arrête, les nouvelles régionales s'en viennent.
Réveil Rimouski à Cirque Stéphane 93, la suite dans un instant.
C'est maintenant l'heure de trouver le meilleur endroit pour faire l'achat d'un produit électronique, informatique ou photographique. Tournez la roue chanceuse. La roue s'arrête sur... Le Centre Hi-Fi de Rivière-du-Loup. Vous gagnez le gros lot.
Je suis tellement contente d'aller au Centre Hi-Fi. C'est un magasin local. Ils ont de bons produits et ils donnent de bons conseils. En plus, ils font la livraison et l'installation.
Tout le monde est gagnant au Centre Hi-Fi Rivière-du-Loup.
Les clubs 50 plus du Bas-Saint-Laurent se donnent rendez-vous à Rivière-du-Loup le 7 septembre. Créez des souvenirs inoubliables et rencontrez de nouveaux amis via des disciplines d'agilité, de la marche, des sorties culturelles ou des jeux d'esprit. Nous vous servirons un repas chaud dans une atmosphère chaleureuse et accueillante. Inscription obligatoire avant le 31 mai. Les informations sur cet événement sont sur www.carrefour50.com. Tarif réduit pour les membres du Carrefour 50 plus.
Réfrigération GRL vous offre ses services en installation, réparation, l'entretien de vos systèmes de réfrigération commerciale, climatiseurs et thermopompes. Réfrigération GRL vous invite à profiter de notre promotion sur les produits Mitsubishi électriques. Contactez-nous dès maintenant pour une soumission et sauvez sur l'installation de votre thermopompe. Pour tout besoin réfrigération, faites confiance à notre
notre équipe d'expérience qui couvre le territoire de Rimouski, Matane et Rivière-du-Loup. Réfrigération GRL, 220 Avenue du Havre, Rimouski, 418-724-7711.
Saint-Charles-Garnier, pour certains, c'est loin, mais pour avoir du plaisir, c'est proche. Du 24 au 26 mai, on va en avoir du plaisir au premier festival Énergie et Culture. Vous vous intéressez aux énergies alternatives? Vous avez des besoins pour alimenter une propriété isolée ou vous voulez tout simplement économiser sur votre facture d'électricité? Venez voir nos exposants au festival.